Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui on reçoit le collectif Oblomov. Long ago when I was small, all summer long it had a fair, wonderful fair with swings and all. I used to love my little fair, and at the close of every day I could be found dancing around a merry-go-round that used to play.
He sang to Mary this serenade. If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen, darling. I won't care. Shall I catch a shooting star? Shall I bring it where you are? If you want me to, I will.
Hope I get this right.
You can set me any task. I'll do anything you ask. If you'll only love me still, when at last a life on earth is through, I will spend eternity with you. If you love me, really love me, let it happen, darling.
Les amis d'Orwell. Et nous avons comme invité donc, le groupe Oblomov à l'occasion de la sortie de leur livre « Un futur sans avenir, pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique ». Donc le groupe Oblomov, d'ailleurs je rappelle que c'est les éditions L'Échappée. Donc le groupe Oblomov, je rappelle bien groupe hein, parce que ce n'est pas un collectif comme je disais tout à l'heure, s'est constitué en 2004. Dans cet ouvrage, vous reprenez des textes que vous avez écrits, qui ont été publiés sur Internet, notamment un texte qui parle de la formation du groupe. Peut-être on peut commencer par là, comment s'est formé donc Oblomov.
Alors, le groupe Oblomov s'est formé en 2003-2004 en réaction au discours qui était émis par le mouvement Sauvons la Recherche. En fait, avant le mouvement Sauvons la Recherche, il y avait eu le milieu scientifique avait été un peu ébranlé par la critique qui était faite, notamment autour de la question des OGM. Et en fait, le mouvement Sauvons la Recherche avait désamorcé ces critiques-là, les critiques de la pratique du métier de chercheur scientifique. Et il y avait une espèce d'union sacrée autour d'une image mystifiée de la recherche pour le bien qu'il fallait absolument défendre. Donc pour nous, ce discours était inacceptable. Ça représentait un recul par rapport à ce qu'on avait connu les années précédentes. Et donc, on a créé ce groupe à cette occasion-là.
Et alors, tu dis, nous, vous faites partie de... Vous êtes des chercheurs. Enfin, qu'est-ce qui vous regroupe? Enfin, pourquoi vous, en fait, avez créé ce groupe? Vous vous sentez particulièrement concerné par la question de la recherche?
Alors, les personnes qui ont participé à ce groupe ou qui participent encore... Elle venait de différentes origines, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous, on a fait un parcours scientifique, enfin, en tout cas, on a passé de nombreuses années à l'université, et c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup qui ont été assez loin dans les études universitaires, donc c'est aussi pour ça qu'on a pu comme ça développer un propos sur l'université, sur la recherche scientifique, parce qu'en fait, on l'a en fait vécu nous-mêmes. On est un peu passé à travers ce genre d'institutions, ce qui nous donnait une réflexion un peu peut-être plus évidente que bah, effectivement ce qu'on peut que n'importe qui n'a pas forcément vu ça. Enfin, je veux dire, donc ça permettait aussi d'avoir une vision, je pense, un peu plus concrète et moins mythifiée ou plus un peu plus réaliste des choses, quoi, des relations personnelles aussi, des relations hiérarchiques qui sont aussi là présentes dans le milieu universitaire, avec tout ce qui est autour de la compétition, de la recherche des bourses, des financements.
Donc du coup, vous avez écrit un texte qui s'oppose donc à celui de Sauvons la Recherche.
Oui, alors en fait, l'histoire du livre est un peu plus compliquée que ça, parce qu'il y a eu d'abord un premier texte assez court qui s'appelait, qu'on avait appelé une plateforme qui s'appelle le futur triomphe, mais nous n'avons plus d'avenir, qui a été le premier texte, qui était une manière pour nous d'essayer de voir un peu où on en était. Et puis suite à ce texte-là, on a eu des réponses, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous ont fait des critiques, parce que là c'était un texte assez court, hein, qui faisait 4 ou 5 pages. Et donc suite à ça, on a eu des réponses, pas mal de personnes qui nous ont envoyé des lettres ou des mails. Bon. Et donc ensuite, on a voulu détailler un peu plus, développer notre réflexion, et ça nous a permis à ce moment-là d'écrire un texte beaucoup plus long, que l'on a publié sous forme d'une brochure, qui s'appelle... La disparition des lucioles. Alors ça, on l'a publié il y a un an et demi maintenant. Et cette brochure, on l'a assez facilement distribuée. Enfin, voilà, ça a créé un certain engouement. Et donc maintenant, avec ce livre, on a voulu pérenniser cette brochure parce qu'elle est, on l'a entièrement diffusée. Mais alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que ce livre, il contient pas uniquement ces textes de réflexion, il contient aussi des actions que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait là depuis 4 ou 5 ans des diverses interventions, diverses interruptions de débats, ce genre de choses. Et donc à chaque fois, on a essayé de faire un tract ou de faire un récit de ce qu'on avait fait. Donc le livre contient à la fois un aspect réflexion assez général sur la société, en termes politiques, en termes de... Et puis aussi des récits d'action. Parce qu'on avait, on a toujours eu envie de lier à la fois le côté réflexion et puis le côté pratique, quoi. On veut pas non plus... Parce que c'est vrai que pour des personnes comme ça qui sont beaucoup passées par le milieu universitaire, on pourrait assez facilement se recroqueviller dans son bureau, dans une bibliothèque, et puis critiquer le monde assez comme ça, éventuellement assez radicalement. Mais voilà, il s'agit aussi de pouvoir intervenir, enfin de pas non plus s'exonérer d'éventuellement dire des choses plus ou moins directement à des chercheurs ou à des personnes plus ou moins comme ça qui font des débats à tort et à travers dans des grandes institutions.
Oui, mais pourquoi Oblomov, en fait, c'était qui? Ça fait un peu confus, ambigu. C'est qui? C'est un bolchevique scientifique, un poète nihiliste? Qui est ce personnage?
Alors Oblomov, c'est un roman de Gontcharov. Et en fait, c'est un peu un nom en forme de boutade, parce que c'est le héros du roman, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui passe sa journée à ne rien faire, qui n'arrive jamais à se mettre à travailler. Et en fait, c'était un peu une boutade vis-à-vis du milieu de la recherche. C'était une manière de leur dire, vous aussi, reposez-vous. Ne faites rien et réfléchissez un peu au sens de votre activité et surtout au sens de ces résultats de ce que vous produisez. Donc c'est un peu un nom un peu blague, mais quand même on s'est bien retrouvé dans ce nom, on s'est reconnu. Et puis en plus Lénine a dit du mal d'Oblomov, donc finalement on s'est rendu compte de ça plus tard. Et donc, ça nous allait bien.
Donc, j'ai envie de lire un passage du livre, notamment la quatrième de couve, qui va nous amener à parler un peu plus précisément de votre sujet. Donc, nous appelons à établir les liens encore possibles entre toutes les personnes qui, issues ou non du milieu scientifique, entendent résister en acte à l'avancée de la technoscience. Alors, du coup, on se pose une question. Qu'est-ce que vous entendez par technoscience ?
Oui, alors effectivement, parce que le mot technoscience, ce mot peut permettre comme ça de saisir un peu ce qui fait que, parce que effectivement, quand on parle de la recherche scientifique aujourd'hui, c'est un certain type de connaissances, mais en fait, ces connaissances ne peuvent pas être séparées de tout un appareillage de laboratoire, et en fait finalement un appareillage qui permet après aux industriels de produire toutes sortes de choses. Et donc c'est quand on utilise le mot technoscience, c'est vraiment l'idée de ce mélange entre des connaissances qui sont vraiment imbriquées avec des dispositifs technologiques, et les deux n'ont aucun sens séparément, en fait. Et donc effectivement ça apparaît, ça, enfin on pourrait dire que ça apparaît déjà avec l'apparition de la science contemporaine, puisque dès qu'on veut se mettre à mesurer des phénomènes très précis, on a besoin de certains appareils, mais qui ces appareils eux-mêmes nécessitent une certaine connaissance. Et donc il y a vraiment une suite d'enchaînements entre connaissance et appareillage qui en fait s'alimentent l'un l'autre. Donc, et c'est là où ça crée des situations nouvelles, où finalement, ce que tout à chacun peut ressentir ou peut exprimer par rapport à son milieu est d'un tout autre ordre que ce que peut être produit par la technoscience. Puisque là, quand on nous donne des mesures, on peut penser à la radioactivité, par exemple. C'est des phénomènes qui ne sont pas perceptibles ou extrêmement peu. Enfin, je veux dire, on peut nous donner comme ça des experts pourront nous donner des chiffres ou des choses comme ça, mais de fait ça dépasse l'ordre du sensible.
Donc ça nous amène aussi à parler de la science de manière générale, et donc de l'histoire de la science, puisque c'est quand même aussi le sujet de ce livre. À plusieurs moments il est question de la science moderne. Donc qu'est-ce que la science moderne?
Okay. Alors, bon, d'habitude, quand on parle de sciences modernes, on la date avec, avec Galilée et Descartes. Et donc là, c'est montré à un moment l'idée effectivement de vouloir à la fois maîtriser son monde, mais avec l'idée de pouvoir le faire de manière objective à travers des mesures, et puis déjà à ce moment-là avec l'idée de vouloir modéliser. Donc alors, évidemment au début c'est tout à fait c'est plus une idée parce qu'ils ont très très peu de moyens, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là ça se fait essentiellement sur des questions de mouvement des planètes. Alors, il s'avère effectivement que la mathématisation marche pour pour suivre le mouvement d'une planète. Et après, cette idée-là c'est poursuivie. Bon, ça a pris plusieurs siècles pour effectivement appliquer cette modélisation-là à des phénomènes de plus en plus poussés et en fait des phénomènes de plus en plus proches de notre vie quotidienne. Et donc cette idée de vouloir comme ça... finalement, parce que cette modélisation, ça va forcément avec l'idée de construire des processus qui sont dans cette modélisation, parce que on a besoin d'appareillages qui vont dépendre de la modélisation pour améliorer la modélisation, pour en créer de nouveaux, plus perfectionnés. Donc il y a comme ça tout un cheminement qui aboutit, disons, on pourrait dire avec l'ère industrielle, c'est-à-dire il y a deux siècles, où là on commence à faire des machines de plus en plus grosses. Avec une capacité à gérer l'énergie et comme ça à avoir des processus de production qui sont dans cette histoire de la science contemporaine. Mais ça veut dire aussi quand même le fait qu'on coupe enfin le côté sensible et ressenti face à une machine, face à une situation est complètement nié dans cette manière d'appréhender le monde. C'est quelque chose qui n'est pas jugé comme important ou comme enfin ça, on essaie de nous réduire une réalité à des suites de chiffres, d'équations, et tout serait là.
Mais est-ce que la science vous la questionne, la science moderne, oui, au sens où tu l'as décrit, est-ce que vous la questionnez dès le début? C'est tout le débat sur la notion de progrès, ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné il y a eu un basculement, un point de ce qui pouvait être positif est devenu négatif, ou est-ce que c'est dès le début que le questionnement intervient sur cette notion de progrès liée à la science?
Bon, en fait, je pense qu'il peut être intéressant pour nous aujourd'hui de refaire une histoire des connaissances scientifiques, de voir à quel point la manière de saisir le monde a pu comme ça évoluer au cours des siècles. Mais en même temps, on va pas non plus. Enfin, moi, j'ai pas envie de chercher d'isoler le coupable ou la cause qui ferait, parce que ce serait rester dans une vision déterministe des choses, comme s'il y avait un problème essentiel qu'on pourrait isoler il y a 4 ou 5 siècles, et puis depuis on ne serait que perdu dans les conséquences de ce phénomène historique. Or bon voilà, c'est ceci voir la richesse, enfin je sais pas, la richesse de notre histoire avec des évolutions, et puis je veux dire, la révolution industrielle, c'est pas que les scientifiques, c'est aussi le côté tout le capitalisme qui va avec, enfin donc c'est un ensemble de choses. Il ne s'agit pas non plus de critiquer la recherche scientifique en dehors du reste. Je veux dire, la recherche scientifique, il est intéressant de la critiquer aujourd'hui parce que on a aussi des, je veux dire, il y a toute une activité économique foudroyante qui utilise et qui fait vivre ces recherches scientifiques. Donc c'est un ensemble de choses. Je veux dire, ce qui nous intéresse, nous, c'est de replacer la recherche scientifique dans le bouleversement de nos vies depuis deux siècles. Et de prouver à quel point la recherche scientifique a de fait énormément participé à ça. Et critiquer aujourd'hui le monde contemporain, ça passe entre autres par critiquer la recherche scientifique.
Mais en même temps, enfin dans le livre, vous abordez, quand vous décrivez la science moderne, il est question de l'expérimentation, donc du fonctionnement de la science moderne par l'expérimentation. Oui. Et ça vous semble critiquable sur le monde du vivant, si je comprends bien.
Bah, entre autres, oui. Enfin, mais la question, c'est, enfin, la question, je sais pas si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que, on voit bien là, enfin, aujourd'hui, si on parle du vivant. Alors, je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi les grandes richesses de la produite par la technoscience. Je veux dire, on est quand même parti dans une trajectoire où on veut vraiment produire du vivant, on veut concevoir du vivant, on veut. Donc c'est, on est quand même, je sais pas, par exemple, on pourrait dire qu'il y a 3-4 siècles, on pouvait espérer un jour avoir des connaissances médicales pour que tout le monde vive en bonne santé. Ce qui me paraît évidemment défendable. Mais on en est très très loin en fait, parce qu'on, au contraire, on n'a pas cessé de produire de plus en plus de médicaments, et les gens en fait consomment de plus en plus de médicaments. Donc on dit, si on pourrait essayer de faire un bilan aujourd'hui de ces 3-4 années, de 3-4 siècles de développement scientifique, et se dire que c'est essentiellement, enfin en tout cas, notre dépendance à la médecine n'a jamais été aussi grande. C'est-à-dire que a priori, l'ambition d'un médecin, ce serait de ne pas avoir de travail. Enfin, je veux dire, et on est très loin au contraire, puisqu'il y a d'ailleurs un développement, par exemple, d'une nouvelle profession qui s'appelle les cancérologues, qui est en train d'exploser. Mais parce qu'il y a de fait des besoins, c'est-à-dire que notre état de santé se dégrade.
Je peux être l'avocat du diable.
Je pense que j'ai pas tout à fait répondu à votre question. Mais
je peux être avocat du diable. Moi, je me porte un peu en faux sur le bilan, quoi. Ouais. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, les hommes, ils mouraient à 50, 55 ans, quand même. Et que la moyenne d'âge, elle est quand même augmentée de 20 à 30 ans, quoi. Donc, il y a peut-être. Par contre, peut-être que maintenant, on est arrivé. À questionner notre. Pas seulement les médicaments, mais les prothèses, tout ce qu'ils sont en train de faire, sur le fait que c'est une question de notre identité même d'être humain qui est plutôt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je tirerai pas le même bilan. Moi.
Alors en fait, oui, je dirais qu'effectivement, quand je dis que nos conditions de vie, notre santé se dégrade, c'est peut-être essentiellement visible que depuis, disons, peut-être 20 ans ou 30 ans au maximum. Parce que je pense qu'effectivement, sur la première partie du 20e siècle, il y a eu, je pense, globalement une amélioration de l'hygiène. Et puis, sans doute aussi, quelques progrès médicaux qui ont permis d'améliorer la santé des gens. Mais sauf que là, on est emporté par un phénomène qui va bien au-delà de ça. Effectivement, c'est la multiplication des prothèses, c'est la transformation du vivant complète. Et on voit pas. Le problème, c'est que du coup, si on prend l'histoire de la médecine, ce serait difficile comme ça d'essayer de dire qu'il y aurait un avant, après. Enfin, à quel moment il y aurait eu ce basculement. C'est pas du tout évident, ça. Et donc, ça, en tout cas, ça mérite d'être discuté.
Je propose qu'on écoute un morceau de musique et puis ensuite on reprend. Donc tout à l'heure on a écouté Jeff Buckley et maintenant on va écouter Galliano Portal. Thank you. Vous êtes toujours avec les amis d'Orwell et nous avons comme invité Nicolas et Florent du groupe Oblomov. On parle donc du livre qui est sorti, donc de leur premier livre, qui s'appelle « Un futur sans avenir, pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique » aux éditions L'Échappée. Donc c'est votre, c'est un ouvrage qui recueille un certain nombre de textes et qui dénonce la technoscience. J'avais envie, pour vous faire parler un petit peu plus précisément de ce que vous dénoncez dans la science moderne, donc faire une petite citation. Donc, nous sommes sans doute la seule civilisation à avoir distingué radicalement la santé physique des dimensions spirituelles de la vie humaine. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous entendez par là ?
Ok. Oui, bah, je pense que par exemple, on est rendu à un point où la médecine nous propose toutes sortes de prothèses, toutes sortes de moyens techniques pour que le corps continue à vivre, continue à se et même éventuellement améliorer les capacités du corps. Mais on voit bien que là, il n'y a pas, enfin, c'est pas les scientifiques qui vont nous poser, qui vont nous donner une limite par rapport à ça. Et même, on voit bien qu'il y a même plutôt une, enfin, progressivement, les choses se banalisent. C'est-à-dire que, bon, on introduit une première prothèse, on l'accepte uniquement dans certains cas très particuliers, et puis finalement, on voit que, les choses se font, et puis finalement, ça peut très bien s'élargir et devenir quelque chose d'évident, et on peut comme ça continuer. Et donc là, on va vers des situations où qu'est-ce qu'un corps, qu'est-ce qu'un être humain, à quel moment la dignité de la personne est réellement remise en cause. Ça, c'est des questions qui sont pas de l'ordre scientifique. Et donc, il s'agit de savoir comment poser comme ça, comment pouvoir s'opposer à ça. Alors, ça va être en termes moraux, c'est pour ça qu'on utilise le mot spirituel, bon, qu'on voit dans un, qu'on pense, enfin, qu'on veut dire dans un sens très très général, mais effectivement, aujourd'hui, et le problème, c'est qu'effectivement, enfin, je veux dire, pour l'essentiel des non-contemporains, quand le scientifique dit quelque chose, il serait dans l'ordre du vrai et du faux, et à ce moment-là, ce serait plus possible de s'opposer à ça. C'est-à-dire, comment aujourd'hui s'opposer à un discours d'expert, de scientifique, avec une position qui sera plutôt de l'ordre du sensible, du moral, du... ou de la question de la liberté. Et voilà.
Alors aussi, si dans le livre, donc il y a un point sur la médecine, parce qu'en fait c'est une des choses qu'on nous rétorque très facilement en disant mais regardez, grâce à la science on vit plus longtemps. Et en fait, dans cette brochure, dans ce livre, on a voulu un peu revenir et proposer un esprit critique, un esprit de recul par rapport à un certain nombre d'idées reçues qui sont très fréquentes, notamment à gauche, sur le progrès, sur la science, la santé. Et donc, on propose une vision plus circonspecte et de réfléchir un peu à notre condition politique contemporaine à partir de la science. Et donc, c'est évidemment, sur la médecine, on n'a pas de position tranchée. Mais l'idée, c'est d'appeler à la réflexion et appeler à remettre en question certaines idées qui sont très bien ancrées. Et la médecine en fait partie. Il y a la question, on peut aussi parler du progrès. Et par conséquent, c'est vrai qu'un des aspects du groupe, c'est pour ça qu'on prend la peine d'écrire des textes aussi clairs que possible... et de faire un travail des idées, c'est effectivement de diffuser des idées, des pensées comme ça anti-industrielles, disons, parce que on pense au rôle bénéfique des idées, voilà.
Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'à partir de la question des OGM, ce questionnement va beaucoup... Vous avez l'impression qu'il y a une avancée de la pensée là-dessus ? Vous pensez que c'est de plus en plus de gens se sentent concernés par la problématique ?
Alors, moi, je dirais qu'il y a eu un effet de, de, je vais dire un peu, je vais être peut-être un peu provocateur, il y a eu un effet de mode qui a duré une dizaine d'années. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça reste un signe. Ça veut dire que dans certains milieux, notamment en, disons engagés, on sait que le progrès, que les OGM, c'est quelque chose qui est discutable. Peut-être que par rapport à il y a 10 ans, là, il y a eu en effet une diffusion, certains thèmes qui sont qui ont circulé. Par contre, continuer là-dessus, en tirer des conclusions pratiques. Faire une envisager des luttes politiques sur ce thème. Là, je pense que je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, Florent, mais la parenthèse, c'est un peu refermée.
Ben oui, parce que de fait, sur les OGM, a priori, on ne peut pas savoir si on en mange, et puis sans doute qu'on en mange un petit peu d'ailleurs. Et donc, bon, en soi, voilà, c'est pas... Oui. Donc voilà, je veux dire, la situation est tout aussi, reste tout aussi choquante et problématique qu'il y a 10 ans, quoi. Et puis, en plus, bon, on voit bien, c'est, effectivement, je pense que ça, ça a quand même marqué, et puis même les institutions ont dû tirer quelques leçons de ça, parce que c'est sûr que sur les nanotechnologies... on voit apparaître la même chose et on nous parle déjà de traçabilité, de bon toutes ces choses qui en fait ne sont pas possibles ou vont enfin ça demande une administration folle qui sera de façon fausse, enfin bon, donc enfin bon là c'est effectivement toujours des moyens pour essayer de désensibiliser, de dédramatiser la situation et de donner l'impression qu'il y aurait une certaine maîtrise de la de ces développements scientifiques.
Pour continuer sur... parce que donc, ce dont il est question, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi de critiquer la méthode expérimentale. Je vois par exemple, à un moment, vous dites la méthode scientifique expérimentale qui a d'abord été développée par et pour l'étude des objets animés avait vocation à être étendue à tous les phénomènes et elle a servi de modèle à toutes les autres sciences. Donc en fait, ce que vous critiquez, c'est le fait d'appliquer la méthode expérimentale sur le vivant.
Oui, non, mais il n'y a pas eu de. Enfin, ça a été une fascination des biologistes au 19e, vu le succès à ce moment-là de la physique, donc de la physique classique à ce moment-là, et puis après aussi toute la chimie, de pouvoir appliquer les mêmes modèles, de pouvoir faire d'avoir les mêmes genres de raisonnement sur du vivant, que ce soit du vivant animal ou du vivant végétal. Et donc, ça entraîne nécessairement des visions relativement mécanistes du vivant et qui aboutissent dans les années 50 où on nous parle de programmes génétiques, où là, effectivement, on voit pour un biologiste, il n'y aurait donc plus vraiment de différence entre un ordinateur et un être vivant. Et d'ailleurs, on reste... Alors même si depuis quelques années, les biologistes se rendent compte que l'idée du programme génétique, ça ne marche pas, et bon, donc ils le remettent en cause, mais ils restent avec cette idée première qu'il y aurait quand même un programme génétique, mais il faudrait affaiblir un petit peu le modèle. Et donc ça reste tout à fait très, très prégnant comme idée. Et en même temps... La question, c'est qu'il faudrait à un moment ou à un autre se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ces recherches? Mais comme ils sont enfermés dans leur laboratoire sur des questions extrêmement étroites, enfin, à ce moment-là, ils ne peuvent pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, enfin, faire de la recherche en biologie qui serait un petit peu intéressante, ce serait d'aller voir des agriculteurs, des personnes qui sont... Qui veulent faire pousser des plantes, et effectivement, il y aurait sans doute des questions à se poser. Mais à ce moment-là, ce serait une recherche qui se ferait in situ, enfin, qui serait à des lustres de la recherche qu'on nous fait aujourd'hui, qui va se faire avec d'immenses installations, des gros microscopes, qui ne pourra produire qu'un savoir. Enfin, le savoir produit dans un laboratoire aujourd'hui ne peut pas, en aucun cas, être utilisable par quelqu'un qui fait pousser des plantes, parce que c'est produit dans des termes qui sont dépendants de la machine utilisée et qui, en fait, s'intègrent très bien aujourd'hui parce que ce sera compréhensible par des agronomes, par des industriels qui, eux, effectivement, pourront pourront enchaîner avec, pourront utiliser ce type de connaissances. C'est pour ça qu'à un moment on parle de savoir séparé, parce que aujourd'hui la spécialisation et ce qui va avec la spécialisation, c'est aussi toutes les manières de penser font que les connaissances produites ne sont pas pour les gens. C'est pour ça que quand on nous dit financer la recherche fondamentale seulement c'est la recherche fondamentale pour les gens à travers les industriels. Et ça peut être que ça. Et donc, c'est déjà un type très particulier de recherche. Et donc, ça s'entend toujours derrière, c'est une poursuite du développement industriel, alors que de notre point de vue, c'est justement quelque chose auquel il faut s'opposer.
Oui, donc pour continuer dans les citations, il y a une chose que je trouve assez intéressante dans ce que vous dites, c'est la question n'est pas de rapprocher la science du citoyen, mais de casser la logique de l'expertise, de dénoncer le mensonge de la neutralité de la recherche et d'empêcher la science contemporaine de contribuer au jour le jour à détruire la politique en la transformant en une affaire technique.
Oui, alors là, il y a dans la citation, je pense, il y a deux choses. Il y a peut-être, je ne sais pas si c'est une référence oblique à Sciences citoyennes. Bon, pour nous, évidemment, quand on parle du projet des sciences modernes, je dirais même contemporaines, on pourrait même... En fait, on n'est pas dans une démarche d'épistémologie, hein, comme a dit Florent tout à l'heure. C'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est la science telle qu'elle se fait aujourd'hui. Et pour nous, évidemment, c'est cette science-là en tant que telle qui doit être critiquée. Et premièrement, on ne peut pas distinguer de manière claire la recherche publique et la recherche qui serait financée par des fonds privés. Pour nous, elles correspondent aux mêmes logiques de démesure, une division très poussée du travail, même si évidemment le fait qu'il y ait des recherches qui soient ouvertes aux capitaux privés, c'est pas non plus... C'est pas anodin, mais ça participe d'une même évolution qui est née, qui était bien lancée à partir de la Deuxième Guerre mondiale et des besoins de la planification. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas intégrer une critique, pour nous une critique à la science citoyenne, faire remonter aux scientifiques les attentes des citoyens, les critiques à travers des commissions de débat public, des sociologues, et puis je sais pas quoi d'autre. Pour nous, c'est justement vouloir faire participer les citoyens à leur propre aliénation. Donc nous, on nous situons tout à fait en porte-à-faux avec un mouvement comme science citoyenne.
D'accord. Donc, en tout cas, pour vous, la science actuelle, elle est politique, en fait. Elle est étroitement liée à la politique.
Ah oui, il y a Hannah Arendt qui disait qu'il n'y avait plus que les scientifiques qui faisaient de la politique. Oui, la science, elle est politique, mais faite par des... Parce qu'elle a un effet sur le réel très fort. On peut modifier beaucoup de choses... les scientifiques ont évidemment un pouvoir de modification du réel très fort. Par contre, les conditions qui seraient celles d'une politique saine, c'est-à-dire par exemple le fait de répondre de ses actes, des principes de responsabilité, le fait de pouvoir discuter sur la place publique de nos problèmes, c'est-à-dire comment on veut vivre, quels sont nos besoins, comment les réaliser, avec quels moyens. Ça, évidemment, ce sont des questions qui sont complètement évacuées aujourd'hui par la recherche scientifique. Donc, c'est une politique, disons, c'est une politique dans le sens où un tyran a une action politique. C'est plutôt une tyrannie scientifique.
Et là, à un moment donné, vous faites un rapprochement entre le totalitarisme et la science. Donc un projet politique qui vise lui aussi à la maîtrise totale de la science. Donc en fait, pendant les périodes totalitaires, il y a une sorte d'effervescence de la science.
Oui, enfin, c'est sûr que les nazis ont fait énormément d'expérimentations sur le vivant. voilà, avec un énormément de cynisme. Mais d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est connu d'ailleurs qu'il y a certaines expérimentations sur le corps humain, par exemple, qui n'ont pas été jetées par les scientifiques après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont conservé toutes les données. Mais donc ça c'est et puis c'est, enfin, sur cette idée de la maîtrise des corps, enfin de la et puis cette ambition, enfin on le voit bien aujourd'hui quand même, je veux dire je pense que même sur notre alimentation, tout a été transformé, sélectionné et finalement appauvri, enfin donc ça va quand même extrêmement loin dans la recomposition de tout ce que l'on peut percevoir et du monde dans lequel on peut vivre.
On va écouter Le Temps des Gitans. Libertaire 89.4, vous écoutez Les Amis d'Orwell, et donc nous sommes avec Florent et puis Nicolas du groupe Oblomov, donc, qui vient de faire paraître un livre aux éditions L'Échappée intitulé « Un futur sans avenir, pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique ». Donc vous critiquez effectivement beaucoup la science moderne, mais parallèlement donc, vous défendez ce que vous appelez la raison critique, donc raison vivante qui ne découpe pas le réel en morceaux, qui ne fait pas des êtres vivants des machines, et c'est clair la dernière partie, mais tente de saisir le monde dans son unité, sa multiplicité, Et surtout dans ses contradictions. Alors là, je me suis mal relu, excusez-moi. Donc, je pense que c'est intéressant de présenter un peu votre partie plus militante, plus politique, quoi, puisque vous avez une partie critique, on va dire universitaire, une partie plus dans le réel, plus concrète.
Universitaire, je dirais pas trop. Si tous les livres universitaires étaient comme ça, je pense que ça se saurait.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que votre critique, en fait.
Théorique, on dira.
Voilà, ouais, d'accord.
Non, mais après, effectivement, sur cette question de alors, qu'est-ce qu'on propose. Alors, évidemment, en même temps, ce qu'on propose, faut voir aussi le contexte. C'est-à-dire que, quand même, aujourd'hui, on peut bien sûr effectivement chercher des pistes pour penser le monde dans lequel on est autrement. Donc ça, c'est évidemment souhaitable, mais en même temps, on peut pas faire abstraction du contexte. Que ce soit d'un point de vue légal, d'un point de vue économique. Enfin, il y a énormément de contraintes qui nous empêchent pour avoir un peu d'espace, pour pouvoir faire les choses un peu différemment. Et puis en plus, d'autant plus, enfin, c'est pas non plus l'idée de trouver un refuge. Je sais pas où et de se faire plaisir, parce que de toute façon le développement industriel se poursuit et il y a pas d'endroit sur la planète où on peut échapper à ça. Je veux dire, en plus il y a vraiment des exemples caricaturaux quand on pense. Enfin, il y a un exemple que j'aime bien, c'est le cas des Inuits dans le nord du Canada qui récupèrent toute la pollution des pays industrialisés du nord, puisque là ils ont la chance entre guillemets que les courants aériens se réunissent au niveau du pôle nord, et donc il y a toute la pollution des pays industrialisés qui se réunit là-bas, et donc ils ont ainsi toutes sortes de maladies qu'ils n'avaient pas connues avant. Mais donc là c'est des exemples caricaturaux comme ça où on voit bien qu'il n'y a pas de refuge. Mais après, effectivement, se poser la question de comment penser le monde dans lequel on est autrement. Alors c'est pas bon. On ne va pas non plus tout renverser. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport au vivant, c'est clair qu'il y a des qu'on peut penser, qu'on peut envisager de penser le vivant autrement. D'autant plus qu'il y a eu d'autres sociétés, enfin, qui ont fait des choses. Je veux dire, par exemple, quand on pense à la médecine chinoise, bon, moi je connais pas énormément, mais enfin, en tout cas, c'est des manières d'envisager le vivant qui sont très très différentes et voilà, qui méritent d'être regardées, enfin, sans les dénigrer a priori. Et puis c'est vrai que c'est à des lustres de la manière dont on envisage le vivant aujourd'hui. Et alors en même temps, cette idée aussi de raison critique, c'est aussi ça veut dire aussi déjà de faire une critique de l'expertise, de sortir de ces savoirs séparés. Et ça, c'est déjà faire un saut qui est pas du tout évident et qui a besoin d'être discuté, affiné, parce que voilà, on va pas non plus
Bon, on peut peut-être reprendre sur les actions, en fait, ce que vous faites concrètement.
Oui, parce que le groupe Oblomov, on s'en souvient, vous avez apporté quand même pas mal de choses dans les milieux qui se basent sur ces nouvelles technologies ou les technosciences. Quoi.
Vas-y. Bon, un de nos objectifs, c'est d'apporter un discrédit public sur certaines personnes et sur certains, je ne sais pas si c'est un gros mot, sur certains dispositifs, parmi lesquels les conférences citoyennes, où on invite en fait des personnes à prendre des décisions sur des choses qui sont déjà actées. Donc en général, on y va et puis on y va avec un tract et puis on essaye d'empêcher la tenue de ces réunions. Donc on a quand même essayé de porter une parole un peu scandaleuse pour, euh, pourrait ébranler certaines convictions et disons un aspect comme ça, un train-train de bonne conscience. Tout va bien, il y a certaines critiques, mais on les prend en compte. Donc nous, on vient un peu casser le consensus.
C'est un groupe un peu lutin, quoi, qui essaye de... Non, qui n'est pas simplement sérieux, mais qui est affinitaire et qui essaye d'innover aussi au niveau des modes d'action. Je me souviens de débats au Café de Paris où on ne trouvait pas la sclérose de certaines réunions habituelles. Mais peut-être que en étant extérieur au groupe, j'en ai une. Je ne sais pas, au niveau de vos méthodes d'action, vous avez essayé quand même d'être assez vivant, je pense.
Disons qu'on on cherche, c'est sûr, de faire des choses qui nous semblent à la fois enthousiasmantes, pertinentes, d'essayer d'être juste. Et bon, puis effectivement, pour ces réunions-là, il s'agissait de pouvoir faire des réunions relativement régulières et que les personnes du quartier puissent éventuellement se saisir de cette question-là et que ce soit... Voilà, que ça paraisse relativement spontané. Enfin voilà, de faire en sorte que les gens puissent prendre la parole, s'exprimer et que ça paraisse pas du tout comment dire. Parce que le problème c'est que parfois si c'est un nombre de personnes bien délimitées qui sont évidemment les organisateurs, après on attend toujours que ces personnes-là nous disent quoi faire, enfin où aller, et donc ça pose rapidement des problèmes. Donc essayer de sortir de ça et voilà qu'il y ait réellement un lieu, un moment où il y a une parole comme ça qui puisse circuler, ce qui n'est pas du tout évident.
Mais certaines périodes, vous vous en aperçuez à la Villette, quand il y a eu l'exposition sur la biométrie, ouais, ainsi que la clinique de Montfermeil par rapport au bracelet pour les bébés.
Oui. Oui, mais ça a été deux choses que l'on a fait effectivement. À la Villette, c'était une exposition sur la biométrie, mais ça c'était il y a déjà au moins 3 ans.
Oui.
Et donc effectivement, on avait été perturbé l'exposition. Essayer de faire un peu de bruit à ce sujet-là. Et pour Montfermeil, c'était une des premiers hôpitaux en France qui avait eu l'idée de un petit peu saugrenu à notre goût, de mettre des bracelets, donc des sortes de bracelets anti-vol sur les bébés. Suite, enfin bon, effectivement, évidemment. Alors c'était intéressant d'ailleurs d'aller là-bas parce que c'était du coup, bon, c'est des quartiers assez pauvres, donc c'est une situation, enfin le contexte de l'hôpital était intéressant aussi à voir. La direction avait assez facilement justifié ça en disant qu'il y avait eu, depuis les 2 ou 3 ans précédemment, il y avait eu quelques problèmes à 2 reprises, je crois, de bébés qui avaient été égarés à un moment, mais qui avaient finalement été retrouvés. Et donc, suite à ça, ils avaient pris la décision de régler le problème radicalement. En fait, juste pour revenir tout à l'heure, j'ai eu un blanc par rapport à la question de la raison critique. C'est simplement qu'on ne peut pas se permettre de dire il faudrait penser les choses comme ça, il faudrait... Donc nous, on essaie plutôt de donner des pistes. On pense qu'il faut plutôt, suivant la manière dont on a défini la raison critique, donc c'est plutôt des idées générales. Mais après, voir explicitement ou beaucoup plus précisément comment ça pourrait se traduire, ben ça ce serait le résultat d'une situation beaucoup plus générale et pas juste d'un petit groupe de gens qui comme ça devraient dire dès maintenant la manière dont on devrait penser les choses et les saisir. Ça nous paraîtrait complètement, du coup ça nous mettrait en prise avec, justement, comme nous on critique l'expertise, ça nous mettrait à l'avance dans une sorte d'expertise d'avant-garde qui pourrait dire, et comme on n'a pas envie de se mettre dans cette situation-là qui paraît complètement, enfin qui serait à la fois inconfortable et assez hallucinante, on ne va pas non plus dire ce qu'il faudrait penser.
Bah merci Nicolas et puis Florent. Est-ce que vous avez un site peut-être où on peut retrouver des informations?
Oui, d'ailleurs, c'était peut-être une chose à dire, c'est-à-dire que en fait nos textes ne sont en général pas sur Internet, sauf quelques tracts qui ont pu circuler. Et pour nous contacter, il y a deux possibilités. Donc, il y a une adresse postale qui est 21 Terre rue Voltaire, 75 011 Paris. Et sinon, il y a aussi une adresse email qui s'appelle oblomov@nolog.org. No-log.org. Voilà.
Et je rajouterai très rapidement, avant qu'il y a aussi en ce moment une campagne plus ou moins de promotion des nanotechnologies, commission du débat public sur 12 villes en France. Et que c'est une sorte de concours pour les par rapport aux villes où c'est troublé. Et il y a quelques villes où il ne s'est rien passé, mais sinon à Strasbourg, et c'était interrompu par une banderole sur Seine. Qu'à Lille, il y a eu carrément une interruption. Enfin, ils ont été obligés d'arrêter le débat. Et puis, ça doit se terminer normalement à Paris au mois de février par un grand débat sur les nanotechnologies et l'éthique. Presque tout le monde est intéressé par ce sujet, je pense.
Merci. Donc là, on va écouter pour terminer le groupe Lhasa.
Marca.